France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 16 mai. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, retour aux fondamentaux dans la campagne pour les européennes. La famille Les Républicains au complet hier soir à Paris. François-Xavier Bellamy entouré de Laurent Wauquiez et de Valérie Pécresse. Le PS de son côté rappelle les éléphants. Hier soir, c'est Christiane Taubira qui était sur scène. On voit ça, Agnès, en détail après les autres titres.
Et un premier film choc à Cannes en résonance avec l'actualité sociale des Gilets jaunes, la CGT débordée par sa gauche, le quotidien difficile des Soudanais après des semaines de manifestations et le témoignage bouleversant d'un jeune homosexuel rejeté par sa famille et pris en charge par l'association Le Refuge.
Européenne encore avec les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
Scrutin européen, oui, J-10, le Rassemblement National toujours dans un mouchoir de poche avec LREM. Qu'attendre du sprint final? Un super groupe nationaliste peut-il vraiment se constituer au Parlement européen? C'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, qui sera avec nous dans ce studio à 7h50.
A tout à l'heure Alexandra, 8h20, suite là encore de notre série de grands entretiens spéciaux pour les européennes. Une tête de liste tous les jours au micro de France Inter. Aujourd'hui, c'est Manon Aubry pour la France Insoumise. Vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
En cas de coup dur, c'est souvent vers la famille que l'on se tourne. Alors à 10 jours du scrutin, les listes à la peine ont appelé à la rescousse le banc et l'arrière-banc. Au moment où les favoris dans les sondages, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella, respectivement tête de liste La République En Marche et Rassemblement National, débattaient sur BFM, la droite célébrait ostensiblement son rassemblement autour de François-Xavier Bellamy. 3700 personnes réunies porte de maillot à Paris pour le plus grand rassemblement de la campagne. Élodie Forêt y était, reportage.
Cela faisait quasiment un an que Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse n'avaient pas partagé la même scène.
Ce soir, c'est d'abord le rendez-vous de l'amitié.
Des retrouvailles sans effusion, mais qu'importe, l'essentiel est là. Une belle photo de famille, avec au premier rang des figures du parti, Édouard Balladur ou Michel Alliot-Marie, et un message martelé par Laurent Wauquiez. La droite, c'est nous.
Le Premier ministre s'en est pris à la droite Trocadéro. Mais ce n'est pas la droite Trocadéro qu'il n'aime pas. C'est la droite tout court, parce que ce qu'ils font ne correspond en rien aux convictions de la droite.
Nous sommes de ceux qui n'ont pas renié nos convictions, appuie la tête de liste François-Xavier Bellamy, appelant l'électorat de droite à ne plus se laisser séduire par Emmanuel Macron. Un homme de gauche, dit-il, exemple à l'appui.
Le savez-vous, le projet de La République En Marche commence par une mesure qui nous rappelle que la gauche n'a pas tout à fait disparu. Créer une banque européenne du climat. Grande crise, grande dépense.
La droite, c'est nous. Un message reçu 5 sur 5 par les militants.
Il faut mobilisation de droite. Droit dans ses bottes et on gagnera. Macron, c'est la gauche.
Des militants invités à prêcher autour de la bonne parole pour que l'électorat de droite se mobilise et que l'effet Bellamy tant escompté ne soit pas qu'un feu de paille.
Mobilisation porte-maillot donc, mobilisation générale également à gauche. La gueule de bois, c'est fini, a lancé hier soir l'ex-garde des Sceaux Christiane Taubira en meeting à Rouen, aux côtés de Raphaël Glucksmann, alors que la liste PS Place Publique peine à atteindre les 5%. Dans les prochains jours, Bernard Cazeneuve, Najat Vallaud-Belkacem et Martine Aubry remonteront également sur scène. La politique qui s'est invitée à Cannes hier soir avec le premier choc du festival, premier film français en compétition, Les Misérables du réalisateur Lajli, standing ovation durant 10 minutes hier soir, un film sur la jeunesse de Montfermeil confrontée aux violences policières, sans cliché ni parti pris, avec la volonté de montrer la violence sociale au quotidien.
Chez Montfermeil, c'est 40% de chômage. Pour arriver à Paris, c'est 1h30 minimum de transport. Moi, je vois tous mes potes autour de moi, on s'est tous pris des coups de flashball. Tout le monde s'est fait tirer dessus. C'est la norme. Ça fait 15 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on a l'impression avec les gilets jaunes, les Français viennent de découvrir que les policiers sont violents. Ça fait 20 ans qu'on essaie de revendiquer le droit. On dit qu'on va mal, on est en souffrance dans les quartiers, on se sent abandonné. Aidez-nous. Mais on ne se fait pas entendre. Là, on le dit à nouveau, c'est un cri d'alerte. Attention. Parce que la prochaine révolution, elle arrivera des quartiers et ça risque d'exploser.
Cette colère que vous exprimez, elle ne vous emmène pas à diaboliser les policiers, au contraire?
Bien sûr, c'est pas le but. Moi, je dis clairement, c'est tous des misérables, que ce soit les habitants des quartiers, que ce soit les policiers, ils vivent la misère. Après, je suis pas là à les défendre non plus. Oui, chez les policiers, il y en a qui se comportent très mal. Comme en banlieue, il y en a qui se comportent mal, mais ça reste une minorité. Et j'ai l'impression, à chaque fois, on se fixe sur cette minorité, on parle que d'eux. Donc, c'est important d'être juste pour pouvoir essayer de trouver des vraies solutions.
Le réalisateur Ladjli, interrogé par Eva Bétan, la violence sociale dénoncée depuis ses débuts par Ken Loach, le réalisateur britannique en lice aujourd'hui, avec Sorry We Missed You, ou la lutte pour survivre d'une famille de Newcastle. Et si le cinéma témoigne, qui pour défendre au quotidien les laissés pour compte de la croissance, il faut revenir au combat historique, estiment les militants CGT réunis en congrès à Dijon depuis le début de la semaine, qui veulent, contre l'avis de la direction, revenir dans le giron de l'international syndical communiste quitté il y a 25 ans. Laurent Kramer a rencontré des militants très remontés.
Philippe Martinez ne serait pas assez révolutionnaire, jugé trop éloigné du mouvement des Gilets jaunes. Pascal, militant marseillais, appelle à un sursaut, un réveil de la CGT.
Il faudrait qu'on arrive à se remobiliser et qu'on aille au combat. Qu'on n'oublie pas les fondamentaux de la lutte des classes. On a une ligne de notre direction qui est assez critiquable des fois. On aimerait un peu plus une CGT un peu plus offensive et révolutionnaire, comme ça se faisait auparavant.
La CGT ne doit plus aller à l'Elysée ou à Matignon, car les Gilets jaunes ont redémontré que seul un rapport de force permet d'avancer, explique de son côté Chantal, militante quinquagénaire.
La règle, on l'a, la recette, on la connaît. Rien dans l'histoire, rien n'a été acquis par le dialogue social. Tout ce qu'on a acquis, on l'a acquis par la grève. C'est tout. Maintenant, il faut prendre ses responsabilités et y aller.
La direction de la CGT doit également écouter les militants sur le terrain, souligne Bachir de l'Union locale de Valenciennes.
La CGT a un mode de fonctionnement qui est obsolète. Aujourd'hui, on est en 2019, il faut se réinitialiser. Revenons à nos syndicalismes de base et de lutte. Les propositions, il faut qu'ils viennent les chercher dans nos unions locales et nos unions départementales. On les a. Il faut écouter les militants, il faut écouter le peuple.
Des militants CGT qui appellent à un renouvellement de la démocratie en interne pour toutes les décisions qui engagent la centrale syndicale.
Et c'est demain que Philippe Martinez doit en principe être réélu pour 3 ans.
Il est 7h07, Agnès. Tension au Soudan, où les pourparlers entre l'armée et l'opposition sont suspendus pour 72 heures.
Une initiative du Conseil militaire de transition pour tenter de ramener le calme à Khartoum avec une nouvelle flambée de violence hier, une dizaine de personnes blessées. Les manifestants ont également érigé des barricades qui paralysent la circulation des voitures et des trains. Résultat, les pénuries et la hausse des prix continuent à peser durement sur le quotidien des Soudanais. C'est particulièrement le cas à Omdurman, banlieue pauvre à l'ouest de Khartoum, où s'est rendu Martin Roux.
À perte de vue, les étals sont fournis en légumes. Au centre d'Omdurman, banlieue surpeuplée, aux maisons et aux rues en terre ocre, ce marché est le plus grand du pays, mais les denrées qui s'y trouvent sont désormais trop chères pour nombre d'habitants.
Je n'achète que des choses simples comme de la salade, mais jamais de viande. C'est dur, je te jure, on a faim. Je n'arrive pas à les nourrir.
À proximité du marché, l'entrée d'une station essence est bloquée en attente d'approvisionnement. Voitures, bus et tuk-tuk sont à l'arrêt. Ce chauffeur de taxi espère pouvoir faire le plein de carburant.
Ça fait à peu près une heure que j'attends. Parfois il y a de l'essence, parfois il n'y en a pas. Mais je suis obligé d'attendre si je veux travailler.
Comme l'essence, le pain est rationné. Un groupe d'hommes attend devant la boulangerie Dayman. À 23 ans, il passe en moyenne 10 heures par jour dans la chaleur du fourneau et soutient à distance les révolutionnaires.
Je suis ce qui se passe sur Facebook. La plupart des jeunes là-bas sont au chômage et c'est pour cela qu'ils cherchent tous à quitter le pays. La cherté de la vie nous cause beaucoup de problèmes. Tout ce que j'espère, c'est une baisse des prix.
Le triplement du prix du pain en décembre dernier a été l'étincelle de cette révolution. L'ex-président Omar el-Béchir est tombé, mais la crise économique empoisonne toujours le quotidien des Soudanais. Khartoum, Martin Roux, France Inter.
Quand Paris et Berlin assument leurs divergences, c'est Angela Merkel qui la première a évoqué dans la presse allemande des confrontations, des différences de mentalité. Emmanuel Macron parle, lui, de confrontations fécondes. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Que signifie être père? Que signifie être mère? Bouleversant témoignage que celui d'Anthony, insulté par sa famille, est finalement jeté hors de chez lui à 18 ans parce qu'il est homosexuel. Accueilli par l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeune victime d'homophobie. Il a aujourd'hui 21 ans et vit dans un appartement avec d'autres jeunes victimes. Thibault Lefèvre l'a rencontré.
Le calvaire d'Anthony commence à sa majorité quand il présente son premier petit ami à sa famille.
C'était des insultes tous les jours en fait. T'es qu'un sale pédé, t'es qu'une sale pute. Vous avez votre frère qui vous regarde avec un grand sourire et qui vous dit « je n'ai pas envie que tu me fasses des attouchements ». Ma mère m'avait collé une paire de claques. Si je l'ouvrais, c'est « ouais, tu l'as cherché, machin ». Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste cherché qu'on me donne de l'amour.
Des insultes, des coups, sans explication. Un soir, en rentrant du travail, le jeune homme retrouve son lit et ses affaires au fond du garage.
Le garage, déjà, c'était un garage de 20 mètres carrés. Quand vous avez la porte cassée et qu'il vous manque une vitre, vu qu'il fait froid, vous essayez de calfeutrer la vitre comme vous pouvez et que vous tombez malade au fur et à mesure et que votre médecin vous dit c'est pas normal que tu tombes malade. Et que vous osez pas même à votre médecin de dire voilà, je dors dans le garage. J'avais honte parce qu'en fait, je mérite pas ça.
6 mois plus tard, la situation dégénère encore un peu plus. Anthony est jeté de chez lui.
Les derniers mots que j'échange, c'était le jour où je suis parti. Votre propre mère, vous essayez de lui dire au revoir maman. Qu'elle vous regarde, qu'elle vous sort. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Tu peux mourir. En fait, vous avez tout compris.
Anthony a depuis définitivement coupé les ponts avec sa famille. Il vit désormais à Nice, où il vient de trouver un emploi dans la restauration.
Le refuge qui, depuis 16 ans, a accompagné des milliers de jeunes comme Anthony, lance un appel aux dons cette semaine. Le recours en urgence déposé par les parents de Vincent Lambert a été rejeté hier par le tribunal administratif de Paris. Les parents s'opposent à l'arrêt des soins programmés pour la semaine prochaine. Vincent Lambert est dans le coma depuis plus de 10 ans. Et pour souffler, Nicolas, une promenade le long des quais de Seine, c'est entres ambulants, ces marchands à la sauvette de Tour Eiffel et ces bouquinistes qui veulent intégrer le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Manon Clavry est allée flâner du côté du quai de Conti.
Jérôme Calais vend des livres depuis 28 ans sur le quai de Conti, à quelques mètres du Pont des Arts. Aujourd'hui, il préside l'association culturelle des bouquinistes de Paris et s'inquiète de voir ses collègues fermer. Alors il se bat pour que sa profession intègre le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Être reconnu à l'UNESCO, c'est nous donner d'autant plus de valeur et d'intérêt et aussi nous aider à perdurer parce que si plus personne nous achète de livres, eh bien, on ne viendra plus et si on ne vient plus, ben, on disparaît. Et ce serait vraiment très triste. Ça fait des siècles qu'on occupe les lieux, qu'on les anime, qu'on les égaye et voilà.
Les bouquinistes comptent déjà le soutien de l'Académie française ou du journaliste écrivain Bernard Pivot, de plusieurs personnalités politiques aussi, dont la maire du 5e arrondissement, Florence Berthoux.
C'est la seule capitale au monde où, autour d'une rivière qui la traverse, il y a ce métier qui ne peut pas se vivre sans être au bord d'un fleuve. C'est quand même incroyable.
Pour Jean-Baptiste, les bouquinistes méritent leur place à l'UNESCO. Il n'est pas parisien, mais quand il vient dans la capitale, il aime flâner devant les boîtes vertes le long des quais.
C'est un élément du paysage. Je pense que la promenade aussi sur les quais avec les bouquinistes depuis très longtemps, c'est une sorte de rituel quand on vient visiter Paris.
Il va quand même falloir patienter quelques années. Les baguettes et les bistrots devraient obtenir la reconnaissance de l'UNESCO avant les bouquinistes.
Enfin, la folie hier soir chez Christie's à New York, où la sculpture argentée d'un lapin géant signé Jeff Koons a été vendue à
78 million. 80. Here it is. At 80 million dollars. Gentleman has it here. At 80 million. You have it, sir. 80 million dollars.
91 millions de dollars, le record pour une œuvre d'un artiste vivant, record détenu jusqu'ici par une toile de David Hockney.
Merci Agnès Soubiran. Premier point route, Soisigbourg.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Soisig, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Ça bouchonne, Soisig, déjà du côté de Lyon.
Eh oui, il y a un accident au niveau de Givors sur l'A47 direction Lyon. Vous êtes ralenti depuis Saint-Romain-en-Gier. Le trafic se fait par à coup sur 6 km. Comptez un quart d'heure de bouchon. Et puis en région parisienne, là, ça coince sur l'A86 extérieure dans le Val-de-Marne. Après un accident à Fresnes, il y a plus d'1 heure et quart de bouchon en amont depuis Choisy-le-Roi.